gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Selon les estimations de l'industrie du disque, les chansons des Beatles représentent plus de, tenez-vous bien, 2 milliards de CD et vinyles vendus à travers la planète. Et ces mélodies jouées et adaptées à de nombreux genres musicaux, jazz, salsa, reggae ou musique pour grand orchestre, ne se démodent pas au gré du temps. Notre invité, quant à lui, a enseigné pendant 25 ans les techniques d'enregistrement, la théorie musicale et la composition assistée par ordinateur. Parler des Beatles avec lui, c'est non seulement instructif, mais vraiment passionnant. Avec nous, Pierre de Gagné. Rebonjour.
Enchanté, Armand.
Vous avez passé une bonne semaine.
Excellente semaine.
Vous avez fait d'autres découvertes sur les Beatles, je présume?
Oui, oui, on en fait à tous les jours. Il s'agit de fouiller un petit peu.
Et c'est incroyable quand on mentionne plus de 2 milliards de CD et vinyles vendus à travers le monde. C'est inégalé, ça.
Ce qui est incroyable avec les Beatles, c'est en plus d'avoir eu des ventes vraiment époustouflante. La musique, elle était toujours à son maximum d'excellence.
Et on en vend encore de ces albums à tous les ans.
Absolument.
Et ça fait plus de 50 ans.
Ça fait 48 ans que le groupe n'existe plus et il y a certaines années que le groupe a dominé les ventes dans le palmarès mondial.
C'est incroyable. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans la musique des Beatles? Je vous posais la question la semaine dernière. Vous y avez répondu en partie, mais je sens que pour vous, il y a des éclairs dans les yeux quand on parle des Beatles.
Oui, je crois que la musique des Beatles, jusqu'à un certain point, a été inégalée. Surtout si on se remet à l'époque, parce qu'ils étaient très avant-gardistes. Ils se sont pas contentés de créer la musique juste pour faire de l'argent ou des trucs comme ça, parce que c'est arrivé assez vite, les Beatles, en l'espace d'une année ou deux. À leur tout début, ils sont devenus riches. Tu sais, quand tu deviens riche et au sommet, au top de la planète, comme on dit, à 20 ans, 24 ans, qu'est-ce que tu peux faire de plus après?
Les Beatles étaient de vrais artistes, beaucoup plus que des businessmen. Et puis, ce que fait des artistes, c'est de pousser ton art, essayer de pousser ton art au maximum. Alors, eux, ils ont développé la musique à un niveau vraiment supérieur. Ils utilisaient beaucoup de techniques d'enregistrement. Ils avaient accès à différents instruments. Ils étaient influencés aussi par différents types de musique de différentes parties du monde, et tout ça a été intégré dans leur musique, et c'est ce qui a fait de la musique pop que c'est devenu un art beaucoup plus enviable et beaucoup supérieur à ce que la musique pop pouvait être dans les débuts des années du rock and roll.
Aujourd'hui, il n'y a que deux survivants au moment où on se parle. John Lennon est décédé le 8 décembre 1980, assassiné dans les rues de New York, et George Harrison est disparu quant à lui en 2001. Paul McCartney est toujours très actif. Ringo Starr, on se demande parfois ce qu'il fait.
Il est encore actif, Ringo, il fait des spectacles à tous les années. C'est le All-Star Band. Mm-hmm. Donc, Ringo Starr et les All-Stars, ce qui fait qu'il va chercher des gens qui sont connus. C'est sûr que c'est des personnes quand même assez âgées, là, des vieux de la vieille, comme on dit, mais il fait des spectacles continuellement. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas juste faire sa musique à lui, mais il va faire la musique des autres. Il a fait quelques spectacles il y a plusieurs années avec Greg Lake de Emerson, Lake & Palmer, avec le chanteur de Supertramp, si je me trompe pas. Donc, à ce moment-là, il faisait des chansons de Supertramp, ce qui est intéressant.
Il paraît-il que lorsqu'il y avait des spectacles, la photo de Ringo Starr est celle qui se vendait le plus. C'est celle sur laquelle on mettait le plus souvent des autographes, parce que, ne serait-ce que son faciès, il attirait les foules. Même si on disait que c'était pas nécessairement un excellent batteur.
Ouais, mais Ringo, c'est le sympathique Beatle. Moi, je dis souvent, c'est la colle. C'est lui qui retient, qui a retenu les trois autres, le lien d'amitié. Et puis, c'est vrai, effectivement, le gérant, à ses tout débuts, avait fait comme ça un test de marketing. On va imprimer quelques photos, je ne sais pas combien, une vingtaine de photos de chacun des Beatles. Et c'est Ringo qui a vendu le plus de photos.
On va écouter une première sélection, Blackbird, interprété aussi en français par Madame C. Et en français, ça porte le titre de Merle.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly. Of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly into the light. A dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Merle qui chante dans la nuit, prends ses ailes cassées que tu guéris. Toute la vie, tu n'attendais que cet instant même pour être libre. Merle qui chante dans le noir, prend ses yeux creusés pour mieux tout voir. Toute la vie, n'entendez que cet instant même pour dire au revoir. Merle vole, Merle vole, jusqu'à la clarté de la nuit. Merle qui chante dans la nuit, prend ses ailes cassées que tu guéris. Toute la vie, tu n'attendais que cet instant même pour être libre. Merle vole, Merle vole, jusqu'à la clarté de la nuit. Qui chante dans la nuit, prends ses ailes cassées que tu guéris. Toute la vie, tu n'attendais que cet instant même pour être libre. Tu n'attendais que cet instant même pour être libre. Tu n'attendais que cet instant même pour être libre.
C'est drôle, Pierre, quand on entend les adaptations françaises. On avait l'oiseau noir, Blackbird, qui est devenu un merle assez gentil. C'est pas nécessairement toujours la traduction littérale de la chanson d'origine.
Non, c'est sûr que le phrasé musical est important.
C'est ça.
La semaine passée, on parlait de la chanson Yesterday.
Oui.
On n'aurait pas pu chanter hier. Hein, c'était « Je croyais ». Le phrasé ne s'y donne pas du tout.
Il y a un humoriste qui avait fait ça à un moment donné. Je ne me souviens plus lequel, mais qui chantait « Hier ».
Oui.
Mais effectivement, le phrasé musical ne correspondait pas beaucoup. Et c'est drôle parce que quand on parle d'adaptation, on va en voir un autre bel exemple. Yellow Submarine, si on traduisait en français, ce serait le sous-marin jaune. Mais en français, c'est devenu... ça a changé de couleur. C'est devenu le sous-marin vert.
Oui, c'est très étrange.
C'est étrange. Et le plus étrange, Pierre, c'est que c'est interprété par Maurice Chevalier. Maurice Chevalier a quand même eu le temps, avant de mourir, d'adapter une chanson des Beatles. Mais vous allez voir que le style Maurice Chevalier ressemble pas vraiment au style
ouais,
Beatles.
Oui, j'imagine. Ça m'impressionne un peu. Là. J'ai hâte d'entendre ça.
Et tu sais, Armand, c'est une chanson qui, originalement, était chantée par Ringo Starr.
Nous avions tous le même âge, les mêmes joies. Quand un jour, dans le village, un vieil homme nous raconta son séjour au fond des mers, dans un beau sous-marin vert. Aussitôt, sans un adieu, comme de vrais marins courageux. Nous partions dans un beau sous-marin vert, un sous-marin vert, vert comme la mer. Tantôt vert et tantôt bleu, tantôt vert et bleu, comme nos rêves bleus. Prévoyant des jours de fête à la gloire du commandant, nous avions une fanfare. Allez les gars là! Nous partions dans un beau sous-marin vert, un sous-marin vert, vert comme la mer. Tantôt vert et tantôt vert et bleu, comme nos rêves bleus. Là ça y est, vous entendez, c'est dans le bas. Ça remue, hein? Ça chauffe. Bah, il faut bien que ça chauffe. Parce que si ça chauffe pas, ça refroidit. Hein? Maintenant, nous sommes des hommes. Et parfois, quand rien ne va, quand nos jours sont monotones, dans un rêve comme autrefois, nous partons dans le beau sous-marin vert, papa, le sous-marin vert, papa, vert comme la mer, papa, tantôt vert et tantôt bleu, papa, tantôt vert et bleu, papa, comme nos rêves bleus, parada, nous partons dans le beau sous-marin vert, papa, le sous-marin vert, papa, vert comme la mer, papa, tantôt vert et tantôt bleu, papa, tantôt vert et bleu. Papa, comme nos rêves bleus, parada, nous partons dans le beau sous-marin vert, papa, le sous-marin vert, papa, vert comme la mer, papa, tantôt.
Et vous en pensez quoi, Pierre, de cette interprétation de Maurice Chevalier?
Ça me donne une autre vision de M. Chevalier.
Toujours est-il que ça prouve cependant que les Beatles ont eu une influence vraiment incroyable, même auprès de gens qui ne sont pas nécessairement et même pas du tout associés à la musique rock, parce que les Beatles n'ont pas fait que cela. Ils ont fait une musique qui est universelle et qui aujourd'hui est interprétée par des grands ensembles. Qu'est-ce qu'on peut dire du producteur des Beatles, George Martin, qui a été quand même une personnalité forte et importante pour ce groupe?
Oui, absolument. George Martin, évidemment, était un excellent musicien. J'ai entendu dire aussi qu'il travaillait avec des humoristes, ce qui fait que le côté humoristique des Beatles a peut-être été exploité aussi de cette façon, parce que dans certaines chansons, des fois, on les entend rire, on les entend se poser des cols.
Mais George Martin était surtout un musicien, donc c'est vraiment son côté musical, ses arrangements, son accès aussi aux orchestres, aux musiciens classiques, et il écrivait souvent des arrangements sur les pièces des Beatles. Des fois, c'était suggéré par les Beatles eux-mêmes, et d'autres fois, c'est lui qui totalement écrivait les partitions des musiciens pour l'arrangement de la chanson. Il a même joué sur plusieurs pièces avec les Beatles. D'ailleurs, c'est lui qui fait le solo de piano dans la chanson In My Life. On le surnommait souvent le cinquième Beatle.
Est-ce lui qui a mis en circulation la production de films? Parce qu'il y a eu beaucoup de films. Help, par exemple, où c'était très drôle.
George Martin avait surtout un rôle au niveau des disques, la musique en tant que telle. Mais les Beatles étaient très drôles. Ils avaient un humour très particulier. Et c'est ce que leur gérant, Brian Epstein, a découvert au tout début, que ces quatre garçons-là avaient un humour vraiment exceptionnel, en plus de créer des belles chansons. Et je crois que dans les films, ils ont voulu exploiter ce côté-là. Donc, évidemment, le premier film, Hard Day's Night, c'était plutôt une espèce de vue sur l'époque à laquelle les Beatles donc évoluaient. C'était carrément le début de la Beatlemania. Les jeunes couraient après les Beatles. C'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. On dit que les filles criaient tellement fort, il y en a qui tombaient dans les pommes pendant les spectacles, mais les garçons criaient aussi fort, comme comparé à un match de boxe, par exemple. Alors que dans le deuxième film, Help, ben là, c'était très différent. C'était pas la représentation d'une époque, mais c'était un film avec une histoire qui se déroulait, et aussi on en profitait pour avoir plusieurs séquences où est-ce qu'on voyait les Beatles jouer les chansons du disque Help.
C'est un peu la préhistoire de ce qu'on appelle aujourd'hui les clips qui sont associés aux chansons. Il n'y en avait pas vraiment. Il y avait le Scopitone à l'époque, mais les films des Beatles étaient quand même plus longs qu'une simple chanson.
Ouais, ouais,
Il y a eu même des bandes dessinées qui ont été faites.
Oui, il y a eu des bandes dessinées.
Je vous souligne juste une petite anecdote. Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose. On peut le mentionner parce que le magasin n'existe plus. C'était Eaton. Quand j'étais jeune, on allait le samedi matin chez Eaton au centre-ville parce qu'à 10h ou 11h sur CTV, il y avait les bandes dessinées des Beatles, mais c'était en couleur. On n'avait pas la télévision en couleur. Et on pouvait aller voir ça en couleur. Et il y avait plein de monde qui regardait les bandes dessinées des Beatles. Là, je vous parle des balbutiements de la télévision en couleur, 1965-66, dans ce coin-là.
C'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, une autre petite anecdote, c'est qu'une grosse partie des chansons des Beatles ont été faites en dessin animé. Puis on sait que les Beatles n'ont pas fait juste des petites chansons pop, ils ont fait des chansons très complexe et très étrange, même des fois dans les paroles.
Et même ces chansons-là ont été reproduites en dessin animé. Une chanson comme Tomorrow Never Knows, qui est la chanson la plus expérimentale des Beatles, je dirais, a été créée en dessin animé, ce qui est assez surprenant d'ailleurs.
Est-ce vrai que c'est George Harrison qui a amené tout le côté oriental, la sitar et tout ça?
Oui, George était très attiré par les Indes. D'ailleurs, c'est sur le deuxième film, Help, où on voit Ringo qui trouve une bague. On sait que Ringo adore les bijoux. Et malheureusement, cette bague-là, c'est une bague qui détermine un sacrifice hindou, un sacrifice humain. Donc, il y a une scène aussi qui se passe dans un restaurant. George entend la musique indienne qui joue, et pour lui, cette musique-là est très familière. C'est comme s'il la connaissait, il la ressent, et puis c'est à partir de ce moment-là qu'il va être attiré par les Indes, et quelques années plus tard, ils vont faire justement un voyage aux Indes qui va transformer vraiment les Beatles.
Vous avez dit tantôt qu'ils ont écrit des chansons légères et aussi parfois des chansons très profondes. Là, on va écouter le côté peut-être léger, la chanson qui a pour titre « When I'm 64 », a été adapté en français. Puis curieusement, en français, on a vieilli de 11 ans parce que c'est devenu « Quand j'aurai 75 ans ». C'est l'interprétation de Joël Denis que nous entendrons. Mais d'abord, l'original. C'est une chanson quand même qu'on peut considérer comme légère.
Il était avant-gardiste, Joël Denis, parce que 75 ans d'aujourd'hui, c'est peut-être 64 ans de l'époque.
C'est vrai.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Qui passe n'arrange rien, nous serons vieux demain, mais alors serons-nous encore amoureux, aurons-nous des flammes dans les yeux, saurons-nous dire les mots qu'il faut pour nous rendre chaud, seras-tu fidèle, ma toute belle, à 75 ans. Courses docilement, les repas aussi. Quand tu voudras dormir et qu'il sera tard, je te jouerai de la sitar. On peut se plaire, rester heureux, même quand on est vieux. Seras-tu fidèle, ma toute belle, à 75 ans? À tous les étés, nous ferons un voyage organisé si on a des sous. Et son rêve fou. Pourras-tu m'endurer?
Au plan musical, l'harmonisation de la chanson interprétée par Joël Denis est vraiment très belle et très proche de la chanson originale. Pierre de Gagné est avec nous. On parlait de chansons légères, de chansons un peu plus profondes. Est-ce que vous diriez que la prochaine que nous allons entendre, ne serait-ce que le titre qui peut être évocateur d'un certain romantisme, Strawberry Fields, hein, les champs de fraises, est-ce que c'est une chanson profonde, une chanson amoureuse? Comment vous la classifieriez?
C'est une chanson très personnelle. Je crois que John avait pris une petite pause et il était allé tourner un film, How I Won the War, en Espagne, je crois. Et il a pris un temps pour réfléchir sur sa vie, pour réfléchir sur son enfance, parce qu'il habitait pas loin d'un orphelinat qui s'appelait le Strawberry Fields.
Et c'est curieux parce que vous évoquez le nom de John Lennon, et s'il y a quelqu'un qui, au plan de l'impact social, a eu de l'influence, c'est bel et bien John Lennon.
Absolument, absolument.
On pense à son bed-in, oui, qui a eu lieu ici à Montréal.
Oui.
En 69?
En 69, absolument.
John Lennon, qui se pensait souvent plus populaire que Jésus.
Ben, hein, c'était pas époque. Vraiment ça l'histoire. C'est qu'il disait, dans le fond, que les Beatles étaient devenus tellement connus et tellement aimés des jeunes que les jeunes les aimaient plus ou les connaissaient plus que Jésus. Puis ça a été pris un peu hors contexte, cette histoire-là. Ça a créé, d'ailleurs, toute une polémique. Mais John, quand il a aussi rencontré Yoko, a changé beaucoup, parce qu'en Yoko, c'est comme s'il avait rencontré sa mère, sa femme, son amante. En tout cas, elle représentait tout pour lui. Et puis un jour, il se plaignait en disant « Les médias sont toujours après moi, puis je sors dehors, puis ils me prennent en photo, puis je lève le doigt, puis... » Donc, ça l'énervait un petit peu. Puis elle lui a dit « Pourquoi tu te sers pas de ça pour donner un message au monde? C'est quoi ton message? La paix, l'amour sur la terre. » Et c'est à partir de là qu'il a commencé sa croisade.
Oui, puis on était en période de grands troubles, la guerre au Vietnam, pour ne mentionner que cet événement. Il y avait tout aussi la question des droits civiques aux États-Unis, et John Lennon était partie prenante de ce message universel d'amour. On va méditer justement sur Strawberry Fields, et cette fois-ci avec une interprétation qui est faite par la Scola Musica, et vous allez vraiment être étonné parce que c'est une interprétation qui se rapproche de la tradition du chant grégorien.
Ah oui.